Chers élèves et auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral, Manosque, bonjour. J'ai parlé dans les deux émissions précédentes des croissances économiques et démographiques. Aujourd'hui, je vais discuter sur les limites et les enjeux de ces deux développements pour cette partie du monde et donc de l'humanité. Car la croissance que nous vantent les économistes, c'est-à-dire les « Oh, mais la Chine fait 7% de croissance, 6% de croissance, regardez la Thaïlande à 5, que c'est merveilleux », ne doit pas nous faire oublier les questions sociales, sociétales et environnementales que provoquent ces deux développements sur cette région du globe et sa population. En premier lieu, je vais parler de nourrir, c'est-à-dire qu'il faut nourrir 4,5 milliards d'humains. La région ne connaît plus de famine, mais l'Asie compte 64% de personnes atteintes de sous-nutrition. L'Inde, 19%, sont sous-nourris, en Chine, 10%, soit pour la Chine, quand même 130 millions d'habitants. Ces deux pays avaient atteint l'indépendance alimentaire grâce à des révolutions vertes comme en Inde à partir de 1965. Le riz ou le blé plus performants ont été plantés avec des engrais et les rendements ont été multipliés par 5 en l'espace de 50 ans. Cependant, l'urbanisation grignote les terres agricoles de plus en plus, et ce, dans toute cette région du monde, aux alentours de toutes les grandes métropoles et villes de cet espace. 25% des terres agricoles ont disparu autour des villes en Chine depuis 1997. Et ce processus d'étalement et d'imperméabilisation des sols par la construction de voies de chemin de fer, d'autoroutes, de routes, l'implantation des usines, de quartiers résidentiels, tout ce processus d'urbanisation que nous voyons, cet impact, c'est-à-dire la disparition de terres agricoles. À ceci, il faut ajouter le réchauffement climatique qui fait que par la baisse des précipitations, qu'on a une avancée des déserts et la baisse des nappes phréatiques dont ont besoin les Asiatiques pour vivre. À ceci, j'ajouterai les changements alimentaires, par exemple toujours en Chine, avec le fait que la population chinoise, du fait de la mondialisation, a changé son alimentation. Les Chinois consomment 3 fois plus de viande qu'en 1990, 4 fois plus de produits laitiers et consomment de plus en plus d'aliments transformés par l'industrie agroalimentaire. L'eau est aussi très importante pour nourrir les hommes. Et pas seulement pour chauffer les plats, mais aussi pour s'abreuver. Et là, nous avons un grand problème. En effet, le Gange, le Yangtze, l'ensemble des fleuves asiatiques sont très pollués par l'addition à la fois des engrais chimiques qui sont projetés dans les campagnes, mais aussi des usines pétrochimiques ou autres, et les déchets urbains faits par l'ensemble des populations de cette région. Les maladies se développent dans le riz, la grippe porcine a décimé le cheptel chinois il y a 2 ans, sans compter le scandale de l'industrie agroalimentaire, et notamment le lait pour bébé chinois qui a fait mourir un certain nombre de petits-enfants en bas âge et qui a détourné les familles chinoises des produits « made in China ». La Chine et l'Inde donc ont une impérieuse nécessité d'aller chercher de la nourriture désormais ailleurs. Et pour ce faire, les Chinois notamment ont acheté des terres en Tanzanie, en Chili, aux États-Unis, en Ukraine et même en France. La Chine importe beaucoup de ces produits et de plus en plus de produits agricoles qui sont nécessaires à son agriculture. Par exemple, ils importent des tonnes de foin venant des États-Unis pour nourrir leur cheptel du fait de la faiblesse des précipitations dans les campagnes chinoises. Ils importent aussi du Brésil, du soja, du maïs, pour nourrir leur cheptel. Quant à l'Australie, l'Australie est un des grands pourvoyeurs de moutons et de bœufs pour la Chine. Le Japon doit lui aussi, importer du riz pour sa propre consommation et n'a pas atteint son objectif d'indépendance alimentaire. Donc près de la moitié de la population asiatique n'a pas accès à l'eau potable en continu. Ce qui fait que les recommandations, par exemple pour un Covid-19, de se laver les mains fréquemment et compagnie, tiennent de l'utopie ou d'une plaisanterie de mauvais goût. Quant au bio, si cher à nos écologistes ici, en Europe et aux États-Unis ou en Amérique du Nord, eh bien, disons que pour un Asiatique, c'est un luxe que pour la plupart, ils ne peuvent absolument pas se permettre d'avoir. Quant à la population, il faut aussi qu'elle trouve un emploi dans l'agriculture. L'autre enjeu, ce sont donc les pollutions atmosphériques ou autres. Le port du masque est depuis au moins 20 ans la règle en Chine populaire pour limiter l'inspiration de gaz produits par les usines, le chauffage ou la production d'électricité au charbon, mais aussi l'automobile. On ne dira jamais assez, la Chine est devenue le premier marché automobile au monde, avec près de 50 millions de véhicules vendus par an. Tout ceci fait des smogs de 300 jours sur 365 par an au-dessus des grandes villes chinoises. Alors il y avait une enquête il y a quelques mois qui disait que pour un habitant de Pékin, quand il marchait dans la rue, eh bien le fait de marcher sans masque, ça équivalait quasiment à l'équivalent de 50 cigarettes fumées dans la même journée. Donc avoir une voiture en Chine et en Inde, en Thaïlande, en Malaisie, est un signe de réussite, surtout quand cette voiture est européenne. Avoir une mobylette ou une moto l'est aussi au Vietnam ou aux Philippines. Donc, le fait de limiter l'automobile est un luxe que seul Singapour peut véritablement se permettre. La Chine est l'atelier du monde et cela a bien sûr des répercussions. 300 millions de tonnes de déchets produits par an depuis 2005. 149 millions d'ordures par an, dont seulement 20% de recyclés. L'Asie est aussi la poubelle des pays riches. Nos déchets français, allemands, américains, plastiques, y sont envoyés. Sauf que cela n'est plus tolérable et que trois gouvernements, donc le gouvernement chinois, le gouvernement malais, le gouvernement indonésien, ont renvoyé l'an dernier tous les déchets européens et américains chez eux. L'Allemagne et la France vont devoir donc revenir leurs propres déchets, c'est-à-dire les nôtres. L'environnement devient un enjeu, mais attention, il est limité encore à certains pays. Le Japon, la Corée du Sud, Singapour font des efforts, voire même pour Singapour, c'est presque sa vitrine en ce moment. Hein. C'est là que vous pouvez voir, par exemple, des immeubles avec des végétations luxuriantes au sommet, avec des panneaux solaires sur toutes les lampes de rue. Donc on a ici un pays avant-gardiste, mais attention, c'est le seul qui soit véritablement avant-gardiste. En Chine, on a des quartiers qui commencent à être des éco-quartiers, mais attention, là aussi c'est pareil. Ça s'adresse à une classe sociale très élevée. La majorité de la population n'a absolument pas accès à ce type de quartier. Donc, l'enjeu aussi pour cette région du monde, hein, c'est l'enjeu, il est aussi l'éducation. Un enfant sur deux né en Asie. 1,6 milliard d'Asiatiques ont moins de 24 ans. Le développement économique et le contrôle des naissances dépend aussi du niveau scolaire et de l'accès à l'éducation, mais aussi à une qualification technique supérieure qui donne des espérances et des emplois formés. À ce titre, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, la Chine, l'Inde sont des groupes de tête avec ce sont des pays qui forment énormément d'ingénieurs. 500 000 pour le Japon, on est à près de 800 000 pour la Chine populaire par an, hein, 500 000 aussi pour l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie suivent aussi ce chemin. Voilà pour la success story scolaire, mais ces derniers chiffres cachent en fait d'immenses disparités dans la région. Le taux d'alphabétisation marque de sérieuses différences entre pays, mais aussi entre les sexes. Le Japon et la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, c'est à peu près 100% d'alphabétisation, 97% pour la Chine, mais avec une égalité parfaite entre les garçons et les filles. Ce qui n'est pas le cas en Inde, où seuls 71% de la population est alphabétisée, avec bien sûr de gros efforts au niveau du primaire ces 10 dernières années, avec seulement 81% des garçons, mais surtout 60% des filles. Quant à l'Afghanistan, bah, triste Afghanistan, 38% des gens sont alphabétisés, 50% des garçons et 24% des filles. L'Inde a 600 millions de jeunes de moins de 25 ans. Il faut bien sûr pour ces pays non seulement une liberté d'envoyer les filles et garçons à l'école, mais il faut aussi donc des infrastructures, des enseignants formés et compétents. Par exemple, au Cambodge, on note qu'un enfant sur deux quitte le système scolaire avant la fin du primaire, souvent parce que les enseignants du primaire sont à peine eux-mêmes formés. Donc, ils n'ont pas de pédagogie ou ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas les moyens pour les tableaux. Alors, dans les zones reculées, on a carrément des déscolarisations massives, puisque seuls 30% des enfants dans les zones reculées du Cambodge sont scolarisés. En Chine, les chiffres officiels, donc c'est 100%, hein, bien sûr, puisque ici je suis dans un pays dictatorial et que le Parti communiste fixe lui-même les chiffres. Donc nous sommes ici sur des chiffres officiels avec seulement ces chiffres officiels nous cachent les 230 millions de travailleurs illégaux. C'est-à-dire, je répète, on doit avoir un passeport intérieur et nous avons pour aller d'un village à une ville. Et beaucoup de travailleurs des campagnes sont allés dans les villes pour travailler sans avoir cette autorisation. Donc, on les appelle des vagabonds. Et ces vagabonds-là, ben, ils ont des enfants. Et ben, ces enfants, puisque leurs parents sont vagabonds, et ben, ils n'ont pas le droit d'être scolarisés. Alors, les mesures sont prises pour que ces enfants-là soient aussi un peu plus scolarisés que ce qu'ils étaient au départ. Mais voilà, on a quand même dans les chiffres des zones d'ombre. Quant au Japon et à la Corée du Sud, dont on nous vante ici les principes scolaires, je souligne quand même que la pression sur les élèves est telle que beaucoup d'enfants, en fait, en situation d'échec, eh bien, se suicident ou font des tentatives de suicide. Alors, vous avez, par exemple, sur un pont de Séoul, duquel se jettent, en fait, les enfants en échec, eh bien, vous avez, par exemple, des glaces qui ont été mises avec des mots « ne te suicide pas, ne t'inquiète pas, on ne t'en veut pas » et compagnie. Donc, imaginez les pressions que font de tels systèmes scolaires sur des enfants. Donc, je le répète, hein, sur 1000 élèves entrant dans le primaire en Asie, ben 27 arrivent au baccalauréat. Vous voyez un peu l'effort qui reste encore à faire pour qu'on ait une véritable croissance économique harmonieuse, croissance sociale avec des droits sociaux. Et il faudrait donc, pour que l'éducation primaire soit acquise pour tout le monde, dans les conditions normales, il faudrait qu'il y ait l'embauche de 1 million de professeurs formés pour que cet objectif soit tenable avant 10 ans. Nous sommes donc très loin des critères sociaux et sociétaux européens, nord-européens, de la triade, des pays de la triade, des pays riches et développés, comme nous aimons bien nous appeler. N'oublions pas non plus que cet espace asiatique est aussi caractérisé par des écarts de richesse colossaux. On est souvent pris dans la presse par ces milliardaires, ces tours gigantesques que l'on peut voir à Shanghai, à New Delhi, ces success stories, ces ingénieurs, ces brillants savants que captent les universités occidentales, qu'elles soient françaises, américaines ou anglaises. Nous avons donc ici, bien sûr, une population très riche, éduquée, occidentalisée, mais à côté de ces personnes et de cette petite classe moyenne qui commence à poindre son nez dans tous ces pays, je le répète, émergents, je mets de côté le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour, mais n'oublions pas l'immense pauvreté d'une grande partie de la population. En effet, en Inde, nous avons 68% des Indiens qui vivent avec 2 euros par jour, 28% des Chinois vivent avec 2 euros par jour, et 49% des Vietnamiens de même. Il n'y a souvent pas de sécurité sociale, pas de retraite, pas de RSA, pas de garantie, ni de chômage ou de soins médicaux gratuits. C'est dans cette région du globe un luxe inaccessible, sauf bien sûr pour des pays développés et riches comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan. La seule solution pour les pauvres est souvent de partir, partir de sa campagne vers la ville. J'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire sur la question, mais n'oubliez pas l'émigration en dehors de la zone, notamment vers le Moyen-Orient où les Asiatiques forment maintenant dans les pays du Golfe 77% des immigrés. Ce sont les Pakistanais, les Népalais que l'on retrouve dans les chantiers du BTP. Ce sont les Philippines et les Indonésiennes que l'on retrouve dans les services domestiques. C'est aussi une immigration intra-asiatique. On a des pays comme la Malaisie et la Thaïlande qui commencent à être des pays d'attraction pour les émigrants du sud-est asiatique. On a par exemple de plus en plus d'Indonésiens qui vont en Malaisie. On a des Philippins qui vont en Malaisie aussi. Alors avec des professions plus ou moins mises en avant, comme par exemple l'agriculture pour la Malaisie, pour la Thaïlande c'est plus l'industrie qui est donc les ouvriers qui sont demandés. Donc c'est une soupape nécessaire et une richesse pour les pays de départ. Ça concerne les transferts les transferts d'argent des immigrés vers leur pays de départ, concerne par exemple 6 milliards de dollars par an, rien que pour les Indonésiens qui travaillent en Malaisie. En conclusion, je dirais qu'il faut faire très attention à ce que nous disent les économistes sur les croissances économiques de la région asiatique. Certes, la pauvreté a reculé ces 30 dernières années. Certes, je peux voir des efforts qui sont faits dans les pays et les efforts sont multiples et variés, notamment dans les questions d'éducation. Seulement, le chemin est encore long pour toute cette région, pour rattraper ne serait-ce que le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, et rattraper le modèle économique européen et nord-américain. Encore faut-il peut-être maintenant se poser la question, est-ce que véritablement notre modèle européen et américain de développement est un développement harmonieux et tenable ? C'est sur ces mots que je vais vous quitter aujourd'hui et vous donner rendez-vous pour lundi prochain pour une prochaine émission qui sera une émission de révision sur le programme d'histoire et géographie de Terminal. Voilà, passez une bonne journée, bonne continuation et bonne fin de semaine à tous. Au revoir.